Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Cécile Grigoriev, je suis maraîchère à Piégro-Laclastre. C'est un projet de produire des légumes et chercher un petit peu des terres pour m'installer, des terrains plats avec irrigation qui correspondaient à une installation en maraîchage. Je me suis très très vite rendu compte que le foncier, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir. Donc finalement, je me suis tournée vers un terrain qui appartenait à maman, dont personne ne voulait parce qu'il est en pente et parce qu'il y avait de l'eau qui ressortait un peu toute l'année, donc les tracteurs s'embourbaient. Moi, ça me convenait très bien parce que de l'eau en maraîchage, on en a besoin. Là où je travaille, j'ai pas accès au réseau d'irrigation de la Drôme. Donc voilà, du coup j'ai pu faire un captage de source dans ce champ-là pour avoir suffisamment d'eau pour travailler. Alors le champ fait 1,64 hectare, donc c'est pas très grand, mais en maraîchage ça suffit. Là ça fait à peu près 3 ans que je travaille. J'ai commencé en tant que cotisante solidaire, c'est-à-dire sur une plus petite surface. J'ai commencé à aller avec 2000 m² en maraîchage. Donc dès la première année, j'ai commencé à planter une grande variété de légumes différents pour vendre tout de suite au moins une partie de ma production sous forme de panier de légumes. À partir de ça, il fallait que j'obtienne le statut d'exploitante agricole. Donc simplement en faisant une déclaration de surface à la MSA, un contrôleur de la MSA est venu bien les surfaces que j'avais déclarées. Et voilà, de là, a priori, plus aucun souci, les papiers sont envoyés, je devrais toucher ma DGA d'ici la fin de l'année. Alors en termes d'équipement, donc mis à part les tunnels qui sont en place, on a un super tracteur à chenilles Lombardini des années 60. Une motobineuse par contre que j'ai achetée neuve qui marche très bien. Un atomiseur à dos pour mettre les purins, etc. Que j'ai acheté d'occasion. Voilà, c'est à peu près tout. Après c'est vraiment que voilà, une débroussailleuse pour entretenir le terrain. Et un quad qui me sert à aller au champ quel que soit le temps, puisque le chemin forcément n'est pas goudronné, c'est un chemin en terre battue. Et si par contre je me suis acheté cette année un véhicule utilitaire pour pouvoir transporter mes légumes, puisqu'on a quand même dans l'idée d'acheter un tracteur à roues. Donc voilà, un tracteur avec roues, avec derrière un broyeur, et ça sera super. Alors perspective, dans l'idée, en tout cas ce que la Chambre d'agriculture nous demande, c'est d'arriver au SMIC au bout de 5 ans d'installation. Donc voilà, avec un peu de chance, j'y serai. Voilà, moi je pense arriver à une vitesse de croisière d'ici un an ou deux. Ça me permettra éventuellement de développer, selon l'obtention d'un permis de construire, un atelier éventuellement au vin-viande et un atelier poule-pondeuse. Parce que les clients de mes paniers aujourd'hui sont demandeurs dans ces productions-là. Mon système de panier, c'est pas une AMAP, c'est-à-dire c'est pas une association de consommateurs qui s'est tournée vers un producteur. C'est vraiment moi qui recherche mes clients. Avec ou sans engagement, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'engagement sur un an, il n'y a pas de paiement 6 mois à l'avance. Moi, j'ai eu la possibilité d'obtenir le label bio tout de suite, puisque je me suis installée sur une prairie qui n'avait pas été cultivée depuis longtemps, donc j'ai fait passer contrôleur d'un organisme certificateur. Cette année, c'est la première année où j'ai utilisé ce qu'on appelle la lutte biologique intégrée. Les coccinelles, j'ai pas eu besoin de les acheter parce que vu que mon champ est pas traité depuis X années, j'ai des coccinelles qui sont présentes naturellement, donc il a suffi que je les ramasse et que je les mette dans le tunnel où j'avais une grosse attaque de pucerons sur des concombres. Par contre, j'ai acheté effectivement des acariens pour manger d'autres acariens qui massacraient les plantes sous abri. Alors finalement, la plus grosse difficulté à laquelle j'ai été confrontée, c'est la prise au sérieux. Voilà, parce qu'une jeune fille qui s'installe en maraîchage, qui travaille toute seule en son nom, c'est pas évident. Donc voilà, que ça, toutes les administrations, voilà, que ça soit la chambre d'agriculture, la mairie, il faut du temps pour leur montrer qu'on est vraiment impliqué dans le projet, que c'est vraiment un projet à long terme, que c'est un projet qui est viable aussi, que c'est pas parce qu'on travaille en maraîchage bio qu'on est un baba cool, pas sérieux. Au contraire, il faut être d'autant plus rigoureux quand on travaille en bio, parce que quand les parasites arrivent, c'est trop tard, il faut prévoir avant. Voilà, donc je pense qu'au bout de 3 ans d'installation, les gens commencent vraiment à me prendre au sérieux.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire. Un
Capsule.
Programme soutenu par BioValley.
Alors j'ai entendu une fois un paysan qui me disait avec l'ère du bio, il s'agissait de ramener l'homme dans les champs. Alors, est-ce que c'est la mission d'Agribiodrome créée en 1987, s'étant installée dans la Drôme pour protéger, développer l'agriculture biologique? Pour beaucoup, l'agriculture biologique, c'est un effet d'annonce avec beaucoup de chiffres. Effet d'annonce aussi quand on voit qu'une actualité prégnante est toujours là derrière, avec l'imposition des OGM de plus en plus forte, avec le monopole des semences aussi, dont on nous bassine souvent, avec l'usage abusif de l'irrigation qui vide nos rivières alors que nous on a envie de s'y baigner, avec le maïs toujours présent dans la Drôme alors qu'on manque d'eau. Agribiodrome, une association donc on va dire militante depuis longtemps, même si elle est créée en 1987 et qui est représentée ce jour dans les studios par Marianne Camus, donc directrice d'Agribiodrome. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Pour nous accompagner pardon, tout au long de cette émission, Marie-Aude Cornu, animatrice, coordinatrice de l'association RESOGM Info.
Bonjour.
Bonjour Marie-Aude. Alors, pour parler d'agriculture bio, je suis bien encadré, j'ai intérêt à marcher droit. Peut-être que nous pourrions justement parler un petit peu du paysage de l'agriculture bio. Alors, peut-être au niveau national, Marianne, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui avec le temps qui passe, qui avance depuis, peut-être que le coup de semonce, c'est le Grenelle de l'environnement?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, par rapport aux objectifs du Grenelle de l'environnement, on est encore loin. Puisque les 6% nationaux ne sont pas atteints, on est au niveau national à 3,5% de la SAU, donc de la surface agricole. Alors qu'en Drôme, en 2011, là sur 2012, on va dépasser les 15%. Donc la Drôme reste le premier département bio de France. De par son nombre de producteurs, on est à près de 964 producteurs bio aujourd'hui. Donc là, c'est un chiffre concret, clair, j'espère. Donc, très bon élève pour la Drôme. Au niveau national, encore des efforts sont à faire. On a un ministre de l'Agriculture aujourd'hui qui a nommé un de ses conseillers, Luc Morère, sur les questions de l'agriculture bio. Donc on espère que les moyens seront mis pour atteindre 20% de bio en 2020.
Alors pour avoir tous ces chiffres qui parfois nous étant balancés sur France Inter ou sur d'autres radios à tour de bras, bien parfois aussi manipulés, hein, vous les trouvez où vos chiffres, Marie-Aude, Marianne? Pour avoir des choses fiables.
Alors on a Marianne. Deux éléments, c'est l'agence bio. National, donc qui recense ces chiffres-là. Et puis, on a une base de données. Donc, Agribiodrome appartient à un réseau national qu'est la FNAB et un réseau régional qu'est Corabio. Et nous avons une base de données, bien à nous, que nous remettons à jour presque chaque jour et qui nous donne aujourd'hui les plus de 15% de SAU en bio sur notre territoire.
Donc, on trouve sur le site d'Agribiodrome?
Oui, vous pouvez trouver ces informations sur le site de Corabio.
Voilà, qui est l'antenne régionale.
Exactement.
Voilà. Marie-Aude, toi, tes chiffres, parce que tu as besoin aussi de chiffres, tu travailles avec les chiffres, tu les trouves où? Sur les mêmes réseaux que Marianne?
Alors, les chiffres, ça dépend de quoi. Moi, ça va être plutôt sur les surfaces d'OGM. et là, on s'appuie... Il y a une base de données au niveau international, mais qui est faite par les entreprises biotech. Donc, c'est vrai qu'il faut... décortiquer ce qui est mis dans ces chiffres. Donc ça, c'est plutôt InfoGM, qui est une veille citoyenne d'information au niveau national, qui va faire ce travail d'analyse, décortication, contextualisation, pour vraiment voir ce qu'il y a derrière les chiffres.
Tout au long de cette émission, on va parler un petit peu du visage du bio aujourd'hui. Quel visage le bio prend-il? Parce que c'est vrai que bien souvent, on nous dresse un peu le tableau de nos arrière-grands-parents ou grands-parents qui, déjà à l'époque, sans le savoir, faisaient du bio. Mais aujourd'hui, le bio, c'est devenu autre chose. Alors peut-être qu'il y a effectivement quelques vestiges portés par nos ancêtres, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une partie scientifique spécifique qui est nécessaire pour que le bio prenne toute sa place dans l'époque où nous vivons. Peut-être qu'on pourra aussi faire un petit saut au niveau du changement des mentalités. On a toujours dit que le bio c'était bon pour la santé. Aujourd'hui, la prise de conscience, de quelle nature est-elle ? Et puis bien sûr, on s'arrêtera un petit peu pour découvrir un peu mieux avec Marianne Agribiodrome, puisque c'est une association qui travaille sur bien des tableaux, que ce soit un tableau militant, un tableau de formation, de sensibilisation, et bien d'autres choses encore. Et puis on refermera cette émission avec l'aspect de où est-ce qu'on peut retrouver Agribiodrome. Alors j'imagine que vous êtes bien sûr sur le terrain, hein, à la rencontre des agriculteurs qui veulent mettre leur terre en conversion, mais peut-être que dans les lycées, dans les collège, vous êtes aussi présent, donc on fera un petit peu le tour de tout le travail pédagogique que vous mettez en place. On commence par le visage du bio aujourd'hui.
Alors, le visage du bio, donc je vais le décrire par le visage des agriculteurs bio, parce que c'est eux qui nous donnent la mesure et l'image de l'agriculture bio. Alors, le dernier recensement agricole, donc encore chiffre, hein, le recensement agricole est effectué tous les 10 ans par le ministère. Et pour la première fois, il a fait un petit panorama des agriculteurs bio. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ce recensement nous indique que les agriculteurs bio sont plus jeunes que leurs homologues et sont mieux formés. D'une manière générale, ce sont souvent des gens qui sont issus d'études supérieures. Et leurs fermes, donc elles sont pas plus petites que les fermes en conventionnel, elles sont davantage diversifiées et les agriculteurs bio transforment eux-mêmes souvent un certain nombre de produits. Voilà un petit peu pour le brosser à l'échelon national. Donc ce qui veut dire mieux formé, que l'agriculteur bio aujourd'hui ne pratique pas du tout l'agriculture de ses ancêtres. Il suffit de voir les rendements d'un agriculteur bio, ce sont pas du tout les rendements d'il y a 60 ans ou même 100 ans. Et puis ça demande des techniques très très poussées, des connaissances en termes d'agronomie du sol par exemple, et de bonnes connaissances de son environnement qui sont très pointues. Donc moi je dirais que l'agriculture biologique elle est plutôt en pointe. Que derrière elle.
Alors ça veut dire que ceux qui s'installent aujourd'hui, ce sont tous des ingénieurs, sont tous des gens qui ont de très gros cerveaux, qui fonctionnent très très vite.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ils sont mieux formés que les autres. Ça veut pas dire que ce sont nécessairement des ingénieurs. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est ce qu'a permis de voir le recensement agricole. Par contre, notamment sur la question de la parité homme-femme, c'est la même chose en bio ou en conventionnel. Donc, il y a des choses qui sont identiques et d'autres qui diffèrent.
Alors, on va parler de son évolution à l'agriculture bio, puisqu'on s'était déjà croisé avec toi, Marianne, lors d'une émission il y a un an. Alors, il y a des choses qui ont changé. On parlait du Grenelle, effectivement, de l'engagement d'augmenter la surface agricole bio. Est-ce que depuis un an, il s'est passé d'autres choses quant à l'évolution de l'agriculture bio ?
Alors, un élément important, justement, sur la cartographie de l'agriculture biologique, c'est qu'on a prouvé, justement, ce recensement, que l'agriculture biologique employait plus de main-d'œuvre. On est à 2,4 UTH par exploitation contre 1,7 en agriculture conventionnelle. Donc ça, c'est un élément important. Ça montre que l'agriculture biologique, c'est un élément essentiel de développement des territoires. À une époque où le chômage reste quand même une préoccupation importante pour les Français. Donc ça, c'est un élément. Je dirais ce qui a changé aussi, sachant qu'on est quand même en temps de crise, la consommation de produits bio a encore augmenté, notamment sur les légumes et les fruits, alors qu'elle a baissé de manière générale, élément qu'on explique notamment par la crise. Donc moi, je trouve que ce ne sont pas des détails. L'agriculture bio embauche, on consomme de plus en plus de fruits et légumes bio, sont des éléments, des indicateurs qui montrent que la société a changé, qu'il y a une vraie demande en produits biologiques. D'autre part, ce qu'on peut avoir vu évoluer cette année, c'est peut-être de plus en plus de créativité des agriculteurs bio. notamment par leur mode de vente. Il y a de plus en plus de paniers innovants, il y a de plus en plus en Drôme, donc on a inauguré Champs Libres l'année dernière, donc un magasin de producteurs bio, et ça fonctionne très bien. On va fêter l'anniversaire de Au Plus Près à la Lopi, 7 ans d'existence pour ce magasin de producteurs. Donc ça veut dire que l'agriculteur bio, qui se mettent ensemble, qui fonctionnent ensemble, ça marche. Donc ça, moi, je trouve que c'est des éléments importants qui permettent de montrer qu'il y a une évolution au niveau des types de consommation, mais il y a aussi une évolution sur le mode d'organisation des producteurs bio.
Et puis, on voit aussi fleurir depuis un moment, ce qui peut peut-être être un indicateur d'augmentation des ventes et d'achats, les rayons bio des hypermarchés et supermarchés qui se développent eux aussi, bien sûr, avec pour certaines marques, qu'on pourra peut-être citer si elles sont plusieurs, une prise de conscience, je sais pas, mais en tout cas, un regard par rapport à l'utilisation des OGM sur leurs produits. Je sais qu'il y a certaines chaînes de supermarchés, genre Carrefour, d'autres marques, peut-être Mario, tu pourrais m'indiquer.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que Carrefour, notamment, et les poulets loués, depuis plusieurs années, ont vraiment fait en sorte que leur élevage soit exempt d'OGM. Donc, ils ont cherché à valoriser ça, et depuis le 1er juillet 2012, il est autorisé de noter quand des produits sont, notamment quand des animaux sont nourris sans OGM, selon le seuil autorisé. Et donc, maintenant, effectivement, ils peuvent le faire de façon légale, ils peuvent mettre en avant cette démarche qui n'est pas... Il n'y a pas que eux qui font ça, il y en a d'autres aussi, donc il y a notamment des AOC ou certains agriculteurs en vente directe qui peuvent valoriser maintenant le fait qu'ils font l'effort de ne pas nourrir avec des OGM. Voilà.
Donc ça fait partie, Marianne, de manière d'écouler encore plus de produits bio, ces grandes surfaces qui mettent maintenant des rayons de 3 km en bio.
Alors, c'est démonstratif du fait que la GMS n'est pas insensible au bio. C'est surtout démonstratif d'une volonté des citoyens de manger des produits bio. Après, nous, notre grande question aujourd'hui, la grande question des agriculteurs, c'est vraiment... Les agriculteurs bio ne veulent absolument pas reproduire le modèle de l'agriculture conventionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Mais ça veut dire que la grande distribution aujourd'hui, elle marge énormément sur les produits issus de l'agriculture, et qui trinque, c'est l'agriculteur. Donc nous, on a vraiment envie, on tient absolument à ce que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. C'est quand même pas indécent. Mais la grande distribution a souvent fait en sorte que ce soit impossible, ou alors... au prix de devoir avoir des élevages ou des agriculteurs avec des surfaces très très importantes ou d'un nombre de bêtes très très important. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. L'agriculture biologique, elle doit rester équitable pour la filière, pour le producteur et pour le consommateur aussi. Aujourd'hui, en même temps, nous, on s'interroge. Si le petit casino du coin, pourquoi est-ce qu'il ne travaillerait pas avec le producteur local et non pas avec une importation de pommes bio d'Italie, par exemple. Pourquoi pas ? Maintenant, il faut créer des garde-fous, il faut pouvoir protéger les producteurs.
J'ai quelques vis, mais je suis pisse, bien plus clean que le palais de la justice. Si je fais des vieux os, faut pas que ça soit à l'hospice. Profite, même si c'est que ça glisse, avec le vin comme complice, avec le vin comme complice. Avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice. Non, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est Johnny fout le feu. Johnny s'en fout, Johnny veut sa part de soleil. Comme vous, l'animal à deux pattes qui pense et marche debout. J'ai des idées étranges et quelques rêves un peu fous. J'aimerais causer avec les animaux comme je le fais avec vous. Faire de la gratte comme Django, Jimmy et Paco. Pour ça, je rêve tôt dès le matin, j'y crois fort avant le petit-déj. Paraît qu'on a rien sans rien, si le savoir sans privilège, j'en sais trop rien. Puis je donne ma langue au chat cousin, bien que je sois chelou. vous, un peu vilain, pas voyou, même pas méchant, pour dessous tout, juste innocent comme vous, même si comme vous. Parfois j'ai un peu de mal à aller jusqu'au bout, j'avoue. Je n'ai plus d'une fois, j'ai pris mes jambes à mon cou, c'est fou. Je suis plus fort pour ramasser coups, donner des coups. Et à force d'en prendre, Johnny, vous voyez flou. J'ai quelques vices, mais je suis peace. Bien plus clean que le palais de la justice. Si je fais des vieux os, faut pas que ça soit à l'hospice. Profite, même si c'est que ça glisse. Avec le vent comme complice. 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 Johnny belle gueule, hey, Johnny ferme la grande gueule. Johnny dans le fond, je sais que t'es seul ma gueule. Johnny be good, good, Johnny be bad. Johnny was a good, 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 good man. Johnny t'es pas non, c'est pas ce qui la dérange. Tu sois poli ou non, dans le fond, je vois pas ce que ça change. Johnny, pourquoi tu te connes? Te renfrons la trône à grands coups de bonne. Et hey, Johnny sans vergogne. Johnny savait mais là c'est plus. Et puis t'as trop bu. Johnny, si tu continues comme ça, ils vont te bouffer tout cru. Johnny aime les chissa, check pas les nousa. A trop les chuma, d'être la loi pour si peu de macra.
On va parler de, bah, des consommateurs, puisque effectivement le bio a fait quand même pas mal de chemin sur l'axe principal qui était de dire que manger bio c'était bon pour la santé. Aujourd'hui, en 2012, la prise de conscience est toujours la même ou bien est-ce qu'elle évolue ou elle se démultiplie?
Alors sur cette question, je vais vous reprendre à rebrousse-poil.
Allez-y.
Moi je sais pas si le bio c'est bon pour la santé. C'est choquant, hein.
Ah oui.
Bon. Parce que le bio, avant tout, de quelle santé on parle? À quelle échelle? Donc le bio, l'agriculture biologique, elle se doit de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. On retrouve aujourd'hui dans les nappes phréatiques, notamment de la Drôme, des nitrates, des résidus d'engrais chimiques. Nocifs pour la santé. Elles se retrouvent à petite dose dans l'eau du robinet ou elles ne s'y retrouvent pas grâce aux entreprises de traitement. Ça, c'est un petit exemple, simplement pour dire que j'ai jamais dit que l'agriculture bio, c'était bon pour l'eau. Ça ne donne pas une meilleure eau. Sauf que ça ne pollue pas l'eau. Donc, la nuance, elle est différente. C'est pareil, je ne peux pas dire qu'un produit bio est meilleur qu'un autre pour ma santé. Sauf qu'on n'y a pas mis de pesticides chimiques de synthèse. Et on va dire que c'est le principe de précaution qui prime. Et qu'aujourd'hui, toutes les instances de gouvernance européenne et internationale qui limitent ou qui vont vous dire le nombre autorisé de pesticides par personne et par jour, ça reste des normes, ça reste des globalités, ça reste très flou finalement. Donc, c'est pas que le produit bio est meilleur. C'est que c'est le produit dans lequel vous avez inoculé un certain nombre de grammages de pesticides et d'engrais qui est nocif.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Quand les personnes veulent convertir leur terre en bio, vous êtes à leur écoute pour savoir exactement ce qui s'est passé sur cette terre-là, mais vous êtes aussi organe alors qui fait des études de sol.
Alors c'est un petit peu plus complexe. Donc si on a un agriculteur qui souhaite convertir ses terres en bio, avec la Chambre d'agriculture, on a deux outils à leur proposer. Donc un nouveau en 2012 qu'on a testé en 2011. On a deux outils. Donc, un outil classique qui s'intitule le diagnostic de conversion, qui va lui permettre en fait d'étudier techniquement la faisabilité de son passage en bio, et puis les débouchés économiques et les freins. Et puis un petit point aussi sur la réglementation et les aides. Et puis aujourd'hui, on a mis aussi en place l'étude d'orientation, parce que la Drôme, avec 964 producteurs, il y en a quand même un certain nombre qui ont converti leurs terres. Et puis d'autres qui souhaitent le faire par un atelier, mais qui ont déjà les débouchés. Et alors, on leur propose une étude d'orientation, qui est une demi-journée sur place, sur le terrain. Donc, un chargé de mission chambre et un chargé de mission agribiodrome en binôme pour l'aider. Donc, ce sont des outils d'aide à la décision.
Alors, que trouve-t-on dans ces études? Vous parliez de nitrate tout à l'heure, dans les nappes phréatiques ou dans les rivières. Est-ce qu'on trouve d'autres choses qui peuvent être inquiétantes ou... On a des surprises? On a des surprises quand on...
Mais oui, oui, parce que alors on a de très bonnes surprises en Drôme, notamment dans les zones de captage prioritaires. Donc l'Agence de l'eau, suite au Grenelle de l'environnement, a établi un certain nombre de cartes de zones de captage de prioritaires, notamment nous en Drôme, on en a un certain nombre. Et nous avons des taux beaucoup trop élevés, donc qui dépassent même pour certaines 1 mg. Je ne me souviens plus du nom précis, toutes les molécules chimiques.
On parlait au début effectivement de la prise de conscience et de l'implication qu'ont les consommateurs, pour certains qu'on appelle consommateurs aujourd'hui, par rapport à la pratique du bio et ses incidences donc, au niveau mondial. Il y a des tas de dérives qui, éthiquement, sont exercées à travers le monde, au travers du bio.
Alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la bio-business et des dérives de l'agriculture biologique, hein, c'est tout le cercle Minga. Moi, je préfère revenir à un élément important qui est la question suivante. L'agriculture biologique peut-elle nourrir le monde? Là, souvent, on a un certain nombre d'agriculteurs qui nous ont répondu qu'ils ne passeraient pas en bio parce que c'est pas la bio qui va nourrir la planète. Or, quand on lit les ouvrages de Jacques Capla ou de Marc Dufumier, donc, on se rend compte que ceux qui souffrent de la faim sont des agriculteurs dans le monde. Que pour nous, qu'aujourd'hui, on produit suffisamment pour nourrir la planète entière. Donc c'est pas un problème de production. C'est un problème de répartition des richesses. Et c'est un problème, effectivement, d'expropriation des terres pour certains territoires, ou bien de conquête de l'agriculture par des fermes à grande échelle, donc qui chassent aussi un certain nombre de producteurs. Donc la problématique, elle n'est pas du plus produire, elle est sur la répartition de la production.
Alors sur le cas d'agriculteurs qui fonctionnaient en productivistes et qui veulent passer à convertir leur terre, j'imagine que vous devez quand même avoir des bottes secrètes pour les faire pencher de votre côté lumineux, ce qui est l'incitation ou les incitations.
Alors c'est sûr que un agriculteur qui va passer 40 hectares de pommes, bon, c'est énorme, hein, en agriculture bio... Nous, notre position est double, c'est que quelque part, on va se dire, mais c'est 40 hectares qui recevront plus de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse. Donc par rapport à ce qu'on a indiqué sur la qualité de l'eau, voilà. C'est combien d'enfants qui ne mangeront plus de pommes avec 32 pesticides?
Aujourd'hui, c'est le cas.
C'est le cas. Une pomme, c'est 32 pesticides. Voilà, ça c'est une question importante. Après, l'agriculture biologique, effectivement... Pour nous, elle fait sens que si c'est aussi une exploitation diversifiée, à taille humaine. Et donc, quand ce sont des fermes à trop grande échelle, c'est sûr que ça interroge sur les sens de l'agriculture biologique. Après, le premier élément dont j'ai parlé sur le fait que c'est toujours 40 hectares et c'est toujours ça, voilà. Alors, nous, on va dire qu'on donne des outils d'aide à la décision. On ne peut pas dire à un agriculteur, vous ne passerez pas en bio parce que... Bon, après, on sait aussi que l'agriculture biologique, c'est aussi de la diversification, c'est de la densification au niveau de l'enherbant, c'est de planter des haies. On va dire qu'après, si l'agriculteur suit nos conseils, il reste libre. Hein, on n'est pas des prescripteurs. Mais on souhaite aussi, enfin, au respect d'un certain type d'agriculture biologique.
On va peut-être rappeler à celles et ceux qui nous écoutent les moyens de rentrer en contact avec Agribiodrome.
Alors, nous sommes un standard téléphonique, donc Ophélie qui peut vous accueillir au téléphone les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 16h30. Et je vous laisse découvrir ses coordonnées sur le site internet www.corabio.org.
Voilà, vous pourrez aussi retrouver les coordonnées d'AgriBiodrome dans un guide paysan qui fait son entrée sur le marché des guides, la naissance d'un projet porté par l'association Réseau GM Info.
Bon, bah merci.
Non, merci à toi.
Vas-y, vite. Biotop. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.